I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand tu grandis en cité, fumer c'est tabou. Tu vis dans un village, dans une sorte de village où tout le monde est par sa fenêtre, tout le monde connaît les parents de tout le monde, toutes les mères se connaissent, tout le monde vend, mais il y a une minorité de gens qui fument. À mon époque, il y avait une minorité de gens qui fumaient. En général, même les mecs qui fumaient, ils partaient traîner dans d'autres quartiers pour fumer. Et c'est moi, quand j'ai commencé à fumer, j'ai pas commencé à fumer à la cité, j'ai commencé à fumer au lycée avec d'autres personnes qui n'étaient pas du même milieu social que moi.
Et depuis son adolescence, il s'est bien rattrapé, car c'est un très gros fumeur qu'on va retrouver en fin d'émission, Camille.
Oui, nous sommes allés à la rencontre de Joker, un rappeur parisien qui aime les belles sapes,
dans la cité j'ai la classe, dans mon survêt Adidas,
les belles femmes,
et j'ai des idées obscures où je te tiens par la chevelure, je te plaque le visage contre le mur et je tape sur tes vergetures,
mais aussi la bonne weed.
Je fume cette putain de dope et je fais le tour du globe.
C'est l'épisode 3 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel?
Des bananes.
Vous en voulez?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
Banana Kush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Bonjour et bienvenue dans Banana Kush, le podcast consacré à l'actualité du cannabis. Parce que même si elle est toujours illégale en France, la weed est incontestablement devenue un fait social et culturel.
Dans ce nouveau numéro, vous allez entendre un élu socialiste qui veut faire de la Creuse le Colorado français.
Un rappeur qui a vendu mais ne consommait pas à l'époque. Aujourd'hui, il consomme mais ne vend plus.
Et puis nous vous avons tendu le micro pour nous raconter vos petites mésaventures, vos histoires de bad trip.
Tenez, ça vous détendra.
Quand tu bois beaucoup et que tout d'un coup tu vas fumer un pétard, alors là, c'est le meilleur moyen d'aller gerber, quoi.
Voilà ce genre d'histoire-là. Mais avant tout ça, l'actu weed du mois dernier, résumé en une minute. Banana Kush.
Tu transportes de la marie, n'est-ce pas?
Elle était dans les tuyaux depuis des mois. Elle a été adoptée le 23 novembre dernier à l'Assemblée nationale. L'amende forfaitaire de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants est désormais inscrite dans la loi, mais n'a toujours pas de date ni de modalité d'application.
Après des mois d'attente, l'Agence nationale de sécurité du médicament a enfin rendu son avis. Le 13 décembre, elle se prononce en faveur de la légalisation du cannabis thérapeutique en France, sous certaines conditions et indications.
Il n'y a jamais eu autant de consommateurs réguliers de cannabis en France. C'est la conclusion du baromètre santé 2017. Rendu public fin novembre. C'est désormais 2,2% de la population adulte qui consomme du cannabis chaque jour, contre 1,7% en 2014.
La commune de Villeurbanne, à côté de Lyon, a ouvert le 10 décembre une grande consultation en ligne autour du cannabis. Législation, consommation, trafic, les citoyens ont 2 mois pour s'exprimer et la consultation donnera lieu en mars à un rapport remis au gouvernement et au Parlement. À l'international, c'est la rupture de stock au Canada. 2 jours après la légalisation, les stocks de cannabis étaient déjà épuisés. 2 mois plus tard, ils le sont toujours.
La Corée du Sud a légalisé le cannabis médical. La Thaïlande s'y prépare pour 2019. La Grèce a accordé les premières licences de production de chanvre thérapeutique. Le gouvernement du Luxembourg a annoncé quant à lui son intention de prochainement dépénaliser, voire légaliser, l'usage récréatif.
Et puis de même dans l'état de New York aux États-Unis, le gouverneur démocrate Andrew Cuomo a appelé à la légalisation du cannabis récréatif dès 2019. On termine avec les News People. Miley Cyrus s'est remise à fumer de la weed et c'est la faute de sa maman. Quant à Mac Tyson, il lance une télé-réalité sur sa nouvelle vie de cultivateur.
I'm a banana, I'm a banana.
Tiens, Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
Tenez, ça vous détendra.
Non, je crois que c'est bon, elle est détendue, Madame Agut.
C'était un concert à la maroquinerie. J'avais très 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 chaud et à un moment, j'ai senti mes jambes me lâcher, faire devenir comme du coton. Je me suis écroulée par terre. Mon mec de l'époque s'est foutu de ma gueule.
Qu'est-ce que tu fais par terre?
Je suis tombée.
Et qu'est-ce qui t'a pris de tomber?
C'était un truc de choc thermique, de vague de chaleur immense qui t'envahit. Tu commences à avoir du coton aussi dans les oreilles et avoir une sorte de... Et paf, tu t'écroules.
Banana Kush. Banana, speed, ay, 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 ay.
Hashish, cannabis, marijuana.
Ce serait donc cela, le secret de la banane.
Est-ce que tu connais la Creuse, Christophe ?
Eh ben écoute, non, j'y suis jamais allé.
Eh bien tu as tort. La Creuse, ses réserves naturelles, ses églises romanes, sa préfecture, la ville de Guéret, dont notre invité préside la communauté d'agglomération. Il s'appelle Éric Correa, il est également conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Et s'il a fait parler de lui ces derniers mois, c'est parce qu'à la fin 2017, il a eu une idée.
Eh oui, pour relancer l'économie de son département, qui est frappé par des fermetures d'usines, Éric Correa propose d'en faire un territoire pilote pour la culture du cannabis thérapeutique. C'est une idée qu'il porte depuis un an, dans les médias, mais aussi et surtout sur le front politique. Alors on l'a rencontré lors de son passage à Paris pour le dernier congrès des maires de France.
Bonjour Monsieur Correa.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation à vous exprimer dans Banana Cash. Vous arrivez de la Creuse, dont vous êtes un élu. Comment va la Creuse ?
La Creuse va bien.
Alors racontez-nous, Éric Correa, vous êtes celui qui, il y a quasiment un an maintenant, a proposé au gouvernement de faire de la Creuse un département pilote pour la culture du cannabis thérapeutique. Comment vous est venue cette drôle d'idée ? Un petit peu farfelue en tout cas pour certains.
Je suis moi-même un fermier anesthésiste, donc j'utilise un certain nombre de produits depuis maintenant des années pour calmer la douleur, notamment, qui sont tous des produits dérivés de l'opium, parce que ce sont des produits qui sont puissants et on a besoin de ces produits-là. Mais au fur et à mesure de ma vie professionnelle, j'ai eu aussi à rencontrer des patients qui étaient atteints de douleurs chroniques, qui m'ont dit, bah, écoutez, nous, on a tout arrêté, traitement morphinique, etc. J'ai tout arrêté, je fume du cannabis et ça va beaucoup mieux. Non seulement j'ai moins mal, mais en plus, j'ai pu reprendre une vie sociale, voire reprendre le travail. Donc quand vous avez un témoignage comme ça, puis deux, puis trois, en tant que sanuaire, bien évidemment, ça interpelle.
Sur le détail de votre proposition, en quoi le cannabis thérapeutique peut être une solution économique pour la Creuse et pour lui redonner une attractivité aussi ?
Bah, tout simplement parce qu'effectivement, le cannabis thérapeutique, ça se plante, ça se produit, ça se suit, ça se récolte et ça se transforme. Donc tout ça, c'est une filière économique qu'il y a derrière. Mais si on prend l'exemple du Colorado, c'est 18 000 emplois créés en 3 ans. Alors certes, le Colorado a légalisé complètement le cannabis, que ce soit l'usage récréatif ou l'usage thérapeutique ou l'usage industriel ou l'usage bien-être. Donc ils ont tout légalisé. 18 000 emplois en 3 ans, bien, nous on considère que si on va seulement, et c'est notre demande, sur le cannabis thérapeutique ou le cannabis bien-être, on peut assez rapidement arriver à 400 ou 500 emplois à partir du moment où on met en place toute la filière, c'est-à-dire non seulement la production, mais également la récolte et la transformation sur place. En termes de rentabilité aujourd'hui, un hectare de blé rapporte à peu près 300 euros l'hectare, alors qu'un hectare de cannabis ou de chanvre bien-être peut rapporter 2500 euros l'hectare minimum.
Vous rêvez de faire de la Creuse le Colorado français ?
Oui, pourquoi pas. Bien évidemment, on a chez nous les terres pour ça. Il faut savoir que la Creuse, il y a 100 ans, était le premier département producteur de chanvre ou de cannabis en France, parce qu'il y a une grande tradition de France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est le troisième producteur mondial de cannabis. Les premiers sont les Chinois, les deuxièmes sont les Canadiens, et les troisièmes, c'est la France. Donc on produit déjà beaucoup de cannabis ou de chanvre à usage industriel, c'est-à-dire tout ce qui est pour l'isolation du bâtiment, pour le linge, les tissus, les cordes.
Vous avez discuté de tout ça avec, enfin, je suppose, avec des agriculteurs qui habitent en Creuse, peut-être qui cultivent déjà du chanvre industriel. Qu'en pense-t-il de cette idée ?
Au-delà des agriculteurs, là, vos électeurs, est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que c'est bien accueilli ?
Quand j'ai lancé cette proposition, je l'avais faite au président Macron en novembre 2017. Elle a été rendue publique en février 2018. Alors, inutile de vous dire qu'effectivement, on m'a pris pour un fou. On m'a demandé même si j'avais fumé. Alors, je rappelle que le cannabis thérapeutique ne se fume pas. Effectivement, beaucoup de gens m'ont demandé si j'étais pas fou. Il y en a quelques-uns qui ont suivi, notamment le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, puis des agriculteurs. Eux ont tout de suite emballé le pas parce qu'effectivement, ils comprennent, ils savent, ils connaissent la plante. D'autres agriculteurs, par contre, m'ont raillé. Ils m'ont dit, mais t'es complètement fou, tu vas te cramer, c'est plus la peine de te représenter, par exemple. Il y a des organisations syndicales agricoles qui m'avaient fait une photo de moi avec un gros pétard à la bouche. Alors, l'image caricaturale qu'on ne devrait plus voir, malheureusement, on a besoin de faire beaucoup de pédagogie, ça c'est important. C'est sorti dans la presse, par exemple, un samedi matin. Donc, quand je suis allé faire mon marché, le samedi matin, j'étais accosté, bien sûr. Et en fait, à ma surprise, eh bien, l'accueil a été plutôt positif.
Pas évident, du coup, pour vous qui êtes engagé en politique, élu local, de devenir une sorte de monsieur cannabis malgré vous ?
C'était pas l'objectif, mais si ça peut servir la cause de patients qui, encore une fois, en ont besoin, j'assume.
Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pu revoir le président de la République ? Il a semblé que la ministre de la Santé ait finalement un peu ouvert la porte à cette idée du cannabis thérapeutique. Vous en êtes où ?
Oui, donc l'accueil au début a été fermé. C'est clair que c'était hors de question. Puis, au mois de mai, exactement, Madame Buzyn a fait une avancée, c'était sur France Inter, où elle disait à un moment donné, elle-même, finalement, je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que ce soit des molécules issues du cannabis, on ne pourrait pas voir s'il n'a pas de vertu thérapeutique. C'était peut-être un petit pas, mais une belle avancée qui a décloisonné. Puis après, il y a eu des positionnements politiques. Nous avons fait une tribune dans Le Parisien où des élus de tous bords, avec des professeurs de médecine, etc., on se sont engagés, on signé. Donc on avance, la ministre avance, etc. Et a décidé il y a quelque temps de demander à l'ANSM, donc l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, de étudier la question. Donc qui a créé un comité technique qui est en train de faire le travail, dont le rapport devait être rendu pour le 12 décembre. Et nous aurons le 5 décembre à l'Assemblée Nationale avec Jean-Baptiste, le président de ce comité technique, qui viendra là pour témoigner.
Merci beaucoup Éric Orea.
Merci à vous.
Et puis à bientôt.
Merci.
Et le 5 décembre, à l'Assemblée nationale, s'est donc tenue cette matinée autour des enjeux de la légalisation du cannabis thérapeutique. On y a discuté santé et économie, entendu des élus, des médecins, des agriculteurs, ainsi qu'un discours de clôture très émouvant, paraît-il, et signé Éric Orea.
We have no bananas.
Banana Cash.
We have no bananas today.
Camille Diao. Christophe Payet.
Tenez, ça vous détendra.
Non, je crois que c'est bon, elle est détendue, madame Agut.
Je revenais de vacances de Syrie, juste avant que le conflit commence, et j'avais en plus des contacts là-bas avec des gens plus ou moins surveillés par les services secrets.
Je ne peux pas leur échapper.
On a pris ce space cake, et donc je suis rentré dans une forme de paranoïa hyper intense, où j'ai raconté ça à mes potes autour de WAM, et j'ai embarqué tout le monde avec moi dans cette espèce de connerie.
J'ai dit, tu peux pas leur échapper.
J'ai un pote qui essayait de plus passer devant les fenêtres en étant absolument persuadé qu'il y avait des gens qui nous regardaient depuis les balcons d'en face. En fait, je pense que je suis le pire compagnon de trip et je pense que je transmets la paranoïa.
Ils peuvent te retrouver quand ça leur chante.
Non mais laissez-moi.
Moi.
Non mais laissez-moi.
Moi.
Dans la banane.
Et toi Marie, des petites anecdotes de bad trip à nous partager ?
Oui, c'était il y a très longtemps dans un ascenseur, 3 étages, ça m'a paru durer un siècle.
Nous avons été rejoints par Marie Misset.
Bonsoir.
Salut Marie.
Bonjour, je sais pas, on écoute bonsoir, ce podcast bonjour. À l'heure qu'on veut. Bonjour,
voilà,
Christophe.
Exactement,
Camille.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
C'est l'histoire d'un homme qui prend le cannabis très très au sérieux. Il est canadien, il lui a en quelque sorte sacrifié sa vie, disons-le sans peur d'exagération. C'est un peu le Braveheart du cannabis, la tête sur le bio, il crierait « cannabis » avant de mourir. Alors Marc Emery, c'est un activiste du cannabis, on l'a bien compris. Il est né à Londres, en Ontario, London, Ontario. C'était en 1958, au Canada, donc. Et à 9 ans, il commence un commerce de timbres. Quelques années plus tard, pendant une grève des éboueurs dans sa ville, il met en place un service d'urgence de ramassage d'ordures. Alors on peut voir ça soit comme l'œuvre d'un casseur de grève, soit comme l'œuvre d'un amoureux du service public, soit comme les premiers pas d'un ambitieux businessman. Gageons que c'est un petit peu un mélange des deux dernières propositions. En 1994, il bouge à Vancouver. Plus tard, il se présentera pour la mairie de Vancouver, qui ne gagnera pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et il y développe une ligne de magasins consacrée au cannabis. Conseils de jardinage, comment fumer correctement et même vente de graines, ce qui n'est pas tout à fait autorisé hein, tout ça au Canada dans les années 90. Alors il est plusieurs fois rappelé à la loi, il fait visiter aux policiers locaux son magasin en leur montrant qu'il n'y a rien de mal là-dessous. Ça passe la plupart du temps. Le magasin cartonne, devient un magazine aussi qui devient une chaîne, Cannabis Culture, et lui permet bientôt d'arborer le nom de Prince du Pot. C'est le prince de la weed. Ce qui lui est peut-être monté à la tête, en tout cas il a pris le rôle au sérieux, au point de se mettre constamment en bisbille, donc avec la justice. Mais le coup de grâce vient des États-Unis qui parviennent à obtenir son extradition en 2005. Il est condamné à 5 ans de prison en 2010 pour avoir vendu par correspondance des millions de graines de marijuana à des Américains bientôt autorisés à en fumer, mais pas encore. L'intitulé exact de l'accusation est chouette, c'est « Complot pour fabrication de marijuana ». Alors l'histoire serait banale pour un activiste de la weed qui aime quand même un peu beaucoup la thune, s'il n'y avait pas une grosse histoire d'amour qui s'était développée en parallèle. La princesse du Prince du Pot s'appelle Jody, bientôt Jody Emery. Ils se sont rencontrés alors qu'elle travaillait dans son magazine Cannabis Culture, et la princesse princesse est devenue Mononoke, princesse guerrière du cannabis, quand Mark a commencé à purger sa peine. On a commencé à la voir partout, sur toutes les tribunes, pour réclamer sa libération, son rapatriement et évidemment la légalisation du cannabis. Et puis quand Mark Emery sort de prison en 2014 et qu'il est accueilli, mais vraiment comme un roi rentrant dans son royaume après une longue guerre par ses partisans à Vancouver, c'est tout naturellement que la taille du trône de la princesse du pot est devenue l'égale de la sienne. Le Canada a donc non seulement légalisé l'usage du cannabis, mais ils ont déjà en plus les bécames du cannabis à disposition, autrement dit un couple princier pour en faire sa promotion.
Merci beaucoup Marie, on te retrouve le mois prochain, dans le prochain épisode.
Au mois prochain, c'est pas un truc qu'on dit souvent.
Merci Marie.
Salut.
Banana Kush.
La, 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 la.
Camille Diao.
La, 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 la.
Christophe Payet.
La, 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 la.
Tenez, ça vous détendra.
Non, je crois que c'est bon, elle est détendue, Madame Agut.
J'avais fumé un énorme pétard d'un truc qui revenait d'Amsterdam et tout, et j'ai voulu faire la maline avec mes copains. Et puis, tout d'un coup, je commence à parler, je capte plus rien de la situation. Du coup, je vais dans une chambre, j'essaie de m'isoler, et là, tout d'un coup, j'ai mon cœur qui bat vite, et je me dis, ça y est, je fais une crise cardiaque, je vais mourir.
Je meurs.
Et du coup, je me dis, bon, c'est dommage, hein, putain, j'ai 18 ans, c'est con et tout, tout ça pour un pétard.
Je meurs.
Je me dis, bon, bah vas-y, hein, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait en attendant de mourir et tout. Je me dis, bah je vais mettre de la musique, c'est quand même plus agréable de mourir en musique.
Je meurs.
J'ai pas mal de chansons, mais il y en a un qui me semble particulièrement adéquat, c'est Bob Marley. Mes potes, ils m'ont trouvé au bout d'une demi-heure. J'étais en train d'allonger, genre quasiment à moitié dans mon vomi, en train d'écouter Bob Marley, genre Kaya, tu m'as compris.
Vous allez l'appeler comment ?
Eh bien, je crois que ce sera Bambi.
On était sortis du lycée, c'était la pause. Puis il m'avait proposé une douille. Je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai dit oui, j'ai accepté.
Regardez, il essaye de se mettre sur ses pattes.
Et ils m'ont dit que pour la première douille, fallait la faire en one shot. Donc je l'ai fait. Je sais même pas comment je suis rentré chez moi. Je pense que c'est mes potes qui m'ont raccompagné.
Il a les jambes en coton, hein.
Je me suis allongé dans mon lit, puis là, tout était ultra flou, j'avais l'impression que j'allais mourir.
Cet enfant est épuisé, il a besoin de sommeil.
Waouh, ça allait très vite à ce moment-là, et en même temps, intemporel.
Bambi ? Oh oui, ça lui ira très très bien.
Banana Kush ? Déjà le troisième numéro de Banana Kush, il était temps de discuter avec un rappeur. Alors on a contacté un mec qu'on aime bien. Joker.
Et il nous a reçus dans son studio dans le 20e arrondissement de Paris, entre deux prises de son prochain album, entre deux verres de rhum, et tout en ne lâchant jamais son pétard, il a évoqué avec nous son rapport complexe à la beuh.
Joker, bonjour.
Ouais, bonjour.
Merci de nous accueillir ici dans ton studio. Ouais. T'es rappeur, originaire du 13e arrondissement. Ouais. T'as sorti au printemps ton premier album solo, Joke Rambo.
Le 25 mai.
Ouais, on peut dire que la weed fait clairement partie de ton univers, de tes textes, de tes clips.
J'ai l'impression d'être possédé. J'ai mal. Les gars, je suis foncedé et je plane.
On te voit aussi te mettre en scène sur Instagram, dans tes stories régulièrement, en train de fumer, voire en train de tester des vaporisateurs de weed, même des codes promo, j'ai vu ça.
C'est ça. Je fais des codes promo pour la weed, au cas où. Comme un mec de la télé-réalité, quoi.
Bon, ça, on pourra en reparler plus tard. En tout cas, clairement, la weed est omniprésente. Et je voulais savoir, quelle place elle a aujourd'hui dans ta vie, Joker ?
Elle a une place importante dans ma vie aujourd'hui, la weed, dans le sens où je peux en passer, dans le sens où tous les jours, je peux fumer 2 à 3 joints par jour. C'est un anti-stress pour moi. Voilà.
T'as commencé à quel âge, justement ?
Moi, j'ai commencé à 20 ans.
Assez tard.
Ouais, parce que quand tu grandis en cité, fumer, c'est tabou. Tu vis dans un village, dans une sorte de village où tout le monde est par sa fenêtre, tout le monde connaît les parents de tout le monde, toutes les mères se connaissent, tout le monde vend, mais il y a une minorité de gens qui fument. À mon époque, il y avait une minorité de gens qui fumaient. En général, même les mecs qui fumaient, ils partaient traîner dans d'autres quartiers pour fumer. Et c'est moi, quand j'ai commencé à fumer, j'ai pas commencé à fumer à la cité, j'ai commencé à fumer au lycée avec d'autres personnes qui n'étaient pas du même milieu social que moi. C'est là que j'ai commencé à fumer. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un petit frère que je regarde, qui lui a grandi dans le même quartier que moi. Et aujourd'hui, tu vois, les petits, il y a une majorité de fumeurs, il y a une minorité de non-fumeurs. Avant, moi, dans mon équipe, sur 20 mecs, il y en avait 2 qui fumaient. Mais sérieux, aujourd'hui, sur 20, il y en a 15 qui fument. C'est complètement différent. Peut-être que la vie est 2 fois plus stressante aujourd'hui. Et on diabolise moins le truc. Par exemple, même ma mère, aujourd'hui, elle a un esprit plus ouvert par rapport à ça. Et je pense que c'est avec l'avènement des réseaux sociaux qui ont dédiabolisé le truc. Surtout quand on voit que d'autres pays, c'est légal et elle a un regard totalement différent dessus. Et je pense que c'est ça qui a changé. C'est le regard, en fait, le regard vers le monde.
Et du coup, tu fumes devant ta mère ou toujours pas quand même?
Des fois, je fume, elle rentre. Alors, moi, je suis bloqué, je vais dans ma bouche, je fais quoi? Voilà, ça se passe comme ça. Ouais. Mais même inconsciemment, ma mère, quand elle sent l'odeur, elle sait qu'elle veut pas venir. Elle veut pas rentrer dans cette pièce-là. Elle va voir ses fils avec les yeux rouges et tout.
Non. C'est marrant ce que tu nous racontes parce que si on regarde aujourd'hui justement le rap français, la weed, c'est omniprésent, que ce soit du point de vue du deal ou de la conso. Alors est-ce que ça décrit une réalité ou c'est quoi? C'est du storytelling?
C'est réel. La weed aujourd'hui en France, c'est réel. Énormément de gens consomment. Il y a des gens qui ne fument pas de clope, mais qui consomment du cannabis. Et c'est là où je me dis que soit ils font l'exprès, soit ils sont cons. Ils diabolisent le truc et on sait vers qui ça va parce que les gens qui en consomment dans le 16e et tout, ils n'ont pas de soucis. Quelqu'un qui consomme du cannabis et qui habite dans le 16e, il n'a pas les mêmes soucis que quelqu'un qui consomme du cannabis et qui habite à Grigny. Et c'est pour les gens de Grigny, c'est pour les gens de Sevran, c'est pour les gens du 19e, du 18e qui diabolisent ce truc.
Après, le truc, c'est que si c'est légalisé, pour le coup, dans les textes de rap, tous ceux qui la jouent gangster, qui parlent du deal, etc., ils vont parler de quoi s'ils parlent plus de weed et de shit?
La plupart des textes de rap aujourd'hui, quand ils parlent du deal, ils parlent d'autres drogues. Quelqu'un qui bicrave aujourd'hui, qui bicrave du cannabis, en général, il a entre 15 et 20 ans. Dans une cité, t'as dépassé la vingtaine, tu bicraves encore au détail, c'est chaud pour toi. À partir d'un certain âge, on vend en gros. Tu vois? Sinon, c'est un échec social. Il y a plusieurs cases d'échec social et dans la bicrave, au bout d'un certain âge, tu te mets encore à vendre des barrettes et tout. Poto, change de life, man. Arrête, trouve-toi un taf.
Toi, t'es passé par là, adolescent?
Moi, adolescent, j'ai vendu trop de trucs. J'ai vendu trop de drogue, moi et mes frères. Et putain... J'ai arrêté tout ça, mais je fais que ça, moi, au lycée, en bas de chez moi. Moi, j'avais pas de terrain, les mecs, ils venaient directement dans mon hall. La chanson, on a commencé avec ça. Donc. Les premières heures de studio qu'on s'est payées, Davidson, il bicravait comme un malade dans tout Paris. Ce qui m'a permis, moi, de pouvoir m'exprimer et chanter des chansons d'amour sans qu'on me dise « c'est un mec fragile », c'est que tout le monde sait autour de moi comment notre adolescence s'est passée au quartier, tu vois. J'ai bicrave, moi... Je partais pas en vacances à Marbella. Les gens, ils ont l'image du dealer qui vend et qui se fait de l'oseille. Eh, hey, mais il y a... C'est pas facile, tu sais. T'as 16, 17 ans, c'est un investissement. Parfois à perte, parfois tu gagnes, parfois tu perds, parfois tu gagnes. Et à 16, 17 ans, tu gagnes beaucoup, mais tu perds beaucoup. Et moi, ça me permettait de manger tous les jours, ça me permettait d'être beau. Ça me permettait de pas être ridicule devant les autres. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a les Uber Eats, etc. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes qui entreprennent. Et c'est là, je veux dire, il y a moins de dealers. Il y a plus de consommateurs dans les quartiers, mais il y a moins de dealers aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses où tu peux entreprendre seul. Moi, quand j'étais petit, je ne pouvais pas entreprendre seul. Quand tu voulais l'argent, il fallait aller déposer un CV, une lettre de motivation, et on ne te rappelait jamais. Ça ne veut pas dire que tu es un voyou, ça veut dire que tu es un mec qui veut pouvoir aller au McDo à midi, pouvoir avoir un ensemble Adidas, un ensemble Nike. C'est ça.
Tu te vois investir, te lancer dans le business légal du cannabis en France comme d'autres commencent à le faire aux États-Unis?
Si ça devient légal. Je suis un mec qui vit dans la légalité. Si ça devient légal, pourquoi pas?
Si je reviens au joker consommateur, ouais. Tu nous disais que tu fumes 2 ou 3 bédos par jour. Tu les fumes à quel moment et dans quel but?
En général, j'aime pas trop fumer le matin. Je fume une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire. Quand je suis au studio, je fume énormément. Après les concerts, je fume énormément. Avant, un peu moins.
Et quand t'écris, tu fumes?
Ça m'arrive.
Qu'est-ce que ça t'apporte, artistiquement parlant? Ça t'ouvre l'esprit? Ça t'inspire?
Ça me maintient focus. Ça me met dans le son.
C'est un truc de vibe aussi. Peut-être qu'on réfléchit moins avec son cerveau,
c'est
un peu
ça,
plus avec
même
son corps.
On ressent mieux la musique, on va pas se mentir. Hein. Après un joint, il y a des choses que j'entends mieux. Il y a des choses que j'entends plus dans la musique que lorsque je l'ai écouté 2 minutes avant et que j'avais pas entamé ce genre-là.
C'est intéressant qu'on regarde tes textes, par exemple le morceau Aquarium, qui est vraiment centré là-dessus. T'as un rapport en même temps qui est complexe à la weed parce que on sent que c'est un plaisir et en même temps c'est un peu compliqué. Tu dis par exemple je fume pour oublier que ma vie est triste.
Je suis l'élu comme Néo dans la matrice.
mais j'oublie à quel point ma vie est triste. Jeune négro des blocs HLM, j'suis le singe le plus cool des rayons H&M.
Je mène une vie tellement stressante qui apporte tellement d'anxiété. Quand je dis que je fume pour oublier, c'est que ça me détend et que ça me fait peut-être penser à autre chose. Ça m'aide à oublier et beaucoup de choses. Voilà.
Quand on regarde tes textes aussi, il y a quelque chose qui revient beaucoup au-delà de la weed, c'est ton amour des femmes et du sexe. Mmh. Et du coup, sexe et weed en même temps.
Ça va ensemble, bah oui, moi j'aime bien faire l'amour défoncé. J'aime bien faire l'amour après avoir
une disposition particulière.
Ouais, je sais pas, c'est j'ai l'impression que chaque baisse est différente quand tu fumes. Le sexe est bien, mais machin, mais défoncer c'est mieux.
Et fumer du coup en couple, c'est un truc que tu fais?
Ça m'arrive de fumer avec des meufs qui fument.
On entend moins souvent des meufs qui fument que des mecs qui fument.
Pourtant elles fument les filles, hein. Elles fument beaucoup, mais je pense qu'elles ont plus honte d'être mal vues. On vit dans un pays où une meuf même qui écoute du Joker, on va dire que c'est une pute, c'est-à-dire... c'est-à-dire c'est compliqué déjà.
Bah, merci beaucoup Joker.
Merci à vous. Hein.
Alors on a une petite tradition de fin d'émission, on partage une banane. Donc on se retrouve dans quelques petites minutes pour la banane de fin. A tout de suite.
Ouais, à tout de suite pour la banane.
Banane à cache.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard?
Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
Banana, 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 nanana.
Tenez, ça vous détendra.
Non, je crois que c'est bon, elle est détendue, madame Agut.
C'était le mois de juillet, je crois, juillet 2013, Garance Reggae Festival, à Bagnols-sur-Cèze. J'avais une grosse taf, une grosse première taf. Et là, au bout de deux minutes, c'est un espèce de gros blackout sonore. Faut savoir que je suis vraiment à côté du plus gros sound system du festival. J'entends plus rien. Tout est filtré, j'entends que les basses. Je commence à marcher tout seul, à paniquer. Je pensais que j'allais devenir sourd. J'étais persuadé que je faisais un AVC en fait.
Oh, je vais mourir.
Et je sentais plus mes bras, je sentais plus mes mains. Je me voyais aussi sortir de mon corps, je me voyais d'en haut. Enfin, c'était n'importe quoi. Je m'asseyais à côté de d'inconnus et je prenais leur bouteille d'eau et je me la vidais sur la tête.
Vous gênez pas ?
C'était un gros bordel.
Et il y a autre chose que l'on a demandé à Joker. Y a-t-il des chansons sur la weed qui t'ont marqué ? Tout de suite, il nous a parlé d'Ideal J, l'ancien groupe de Kerry James, et d'une chanson qui nous a étonnés, car elle porte un point de vue assez noir sur le cannabis, finalement un point de vue assez éloigné du discours du rappeur.
Oui, il y a notamment question d'addiction, de fuite de la réalité, de vice. Cette chanson s'appelle « Nuage de fumée ». Elle date de 1998 et on l'écoute tout de suite dans Banana Kush.
Un nuage de fumée me contient, dans un simple joint ma rage je contiens. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qu'il contient déteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect.
Quand nos peines se dressent au-dessus de nos forces.
La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect.
Lorsqu'on est devenu ce qu'on n'a pas voulu être.
Un nuage de fumée me contient, dans un simple joint ma rage
je contiens.
Un liquide nocif maintenant qui soudain, le malin qu'il contient déteint sur mes traits. La rue vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait,
je tire un trait sur le respect.
Mon âme blâme que l'on blâme, dans une atmosphère de drame au rame. Un nuage de fumée me contient, dans un simple joint ma rage
je contiens.
Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qu'il contient déteint.
J'ai qu'un nuage de fumée néfaste me contient, parce que dans un simple joint ma rage je contiens. Très bien, à qui cela profite, dis-moi qui y tient. Mesquins sont restés ceux qui ont décidé d'élire les tiens. À petit feu, mais à coup sûr, je consume mon futur. Ce nuage devient un mur, que je crois me protéger des coups durs. En fait, chacun de nous sait fuir une réalité ou s'être enfermé. Mais dans un vice qui devient vite ton complice de tous les jours. Laisse-moi m'exprimer à ce sujet. Et te démontrer le jeu auquel on est sujet. On nous a vu spliff à la bouche dans la tessie, déambuler dans les rues sans même faire gaffe au plus petit. Faut pas que tu te trompes. On nous a également montré l'exemple. On aurait pu penser que ça nous aurait servi d'exemple. Mais incapable à ce jour d'assumer nos responsabilités, on préfère leur dire. Je vais te niquer si je te vois fumer. Comme si ça nous avait empêché de le faire. Regarde comme tu t'affaires sur les traces de Lucifer. Car comme tout le monde, t'as pas
pensais pouvoir gérer. Maintenant t'allumes un spliff avant même d'avoir déjeuné. Un nuage de fumée, infâme, enfume ton âme en vain. T'essaies de semer les drames qui consument ton âme. Accepte qu'à l'évidence, une dépendance s'établit. Tu noies ton cerveau dans l'absence. Et peu à peu tu t'oublies. Simulacre quoi, d'une vie qui t'a fait battre en retraite. Parce que t'es devenu ce que t'as pas voulu être. Si la vérité je viens faire éclater, c'est sûrement que je me trouvais dans un moment de lucidité. Car un nuage de fumée m'a trop souvent ralenti, perverti mes pensées ou ramolli l'esprit. Et je prie pour que mon petit frère n'en soit jamais épris. Je prie pour que ma vie s'éloigne à jamais de ce vice.
Un nuage de fumée
je contiens. Dans un simple joint ma rage je contiens. Un liquide nocif qui m'atteint plus soudain. Sous le malin qui me contient d'éteint sur mes traits. La tête vient t'abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient t'abstrait, je tire un trait sur le respect. L'âme, l'âme que l'on plane dans une atmosphère de drame. J'ai qu'un liquide fluide nocif matin puis soudain. Le malin qu'il contient d'éteint sur mes traits. La toute vient t'abstrait, je tire un trait sur le respect. L'inconvénient, tu sais,
c'est qu'avant de penser, je fais.
C'est vrai, combien de tes refrains ont dû maîtriser l'alcool, mais sont tombés sous son effet quand un liquide fluide nocif coule dans ton sang.
Je sais qu'en quelques temps, tu te sens un combattant, un guerrier, un chevalier.
Quand ton niqué, t'as pas besoin d'allier. Tu fais des trucs de fou alliés, damnés. Pire encore sont ceux qui ont détruit leur famille, battu leur femme, maltraité leur gosse dans un simple verre. Leur rêve se condamne lorsqu'on est devenu ce qu'on n'a pas voulu être. Qui déçu, s'auto-détruire, voilà ce qu'on se met en tête. Et ça c'est vrai, pour toi, lui et moi. On se maintient sur le fil de la vie jusqu'au faux pas. As-tu observé la tristesse de ceux qu'on loupe et leur jeunesse.
Donc se noie dans l'ivresse,
ont des blessures profondes.
Sur leur sort se morfondent en fait.
Quand on s'enferme dans une bouteille, c'est qu'il y a quelque chose qu'on regrette. C'est net, net et clair, clair. Et dans le flash est un éclair.
Clair.
Les conséquences morales sont aussi amères que sévères. Première chose, je fais du mal à ceux que t'aimes. J'ai jamais su pourquoi on fait du mal à ceux qu'on aime. Est-ce l'express, une profondeur de nos peines qui nous assène d'une haine qui elle entraîne une violence quotidienne, qu'elle soit physique ou morale, perpétrée ou subie, à chaque fois elle fait mal.
Un
nuage de fumée me contient, dans un simple joint ma rage
je contiens.
Un liquide fluide matin, puis soudain, le malin qui me maintient t'éteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Un nuage de fumée
me contient.
Dans un simple joint ma rage
je contiens.
Un liquide nocif matin, puis soudain, le malin qui me maintient t'éteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Mon âme, l'âme que l'on plane. Une atmosphère de drame en rame. Nuage de fumée me contient. Dans un simple joint ma rage
je contiens.
Un liquide nocif matin, soudain. Et sous le malin qui le maintient t'éteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Mon âme clame que l'on plane. Dans une atmosphère de drame en rame. Un nuage de fumée me contient, dans un simple joint ma rage
je contiens.
Un liquide nocif matin, puis soudain, le malin qui te contient d'éteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. La toute vient abstrait,
je tire un trait sur le respect.
La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. L'inconvénient, tu sais, c'est qu'avant de penser, je paie.
Le spleen enfumé d'Idéal J pour conclure ce troisième numéro de Banana Kush déjà parce que ça y est, c'est fini. C'était Christophe Payet.
C'était Camille Diao et c'était aussi Charlène Nouyoux et ses doigts de fée à la réalisation. Rendez-vous dans un mois pour encore plus de bananes.
Et rendez-vous dans une minute pour en partager une avec Joker. Je crois que c'est l'heure de retrouver Joker pour la banane de fin.
Une fois n'est pas coutume, c'est toi Joker qui paye ta banane, alors généralement c'est nous qui payons la banane aux invités.
Non mais avec Joker c'est différent. J'épluche ?
Vas-y, épluche, je t'en prie.
Il y avait peut-être du Costa Rica, je crois. Martinique. Une bonne petite banane de Martinique. Mais elle est très bonne.
Aujourd'hui, elles sont vachement plus concentrées, les bananes.
Ouais, non, je mets beaucoup d'amidon, de sucre, non. Depuis mon premier séjour aux États-Unis, j'ai commencé à blinder mes bananes. Donc quand je vais là-bas, il y a une banane que je kiffe, ça s'appelle le Moonrock. Oh, c'est un rappeur de Snoop, Corrupt, il a une marque. Un plaisir. Grosse dédicace au mec de la West Coast, à tous mes potes à Englewood, Stan, SMG Gang.
Bah, merci beaucoup, Joker.
De rien, merci à vous.
Banana Cash. La consommation de cannabis est illégale. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drugsinfoservice.fr. Thank you.